Shalom tout le monde. Donc nous avons commencé la dernière fois un passage du traité de Berachot qui traite de la prière, et je crois qu'on avait étudié à travers le texte de la Gemara le problème de la définition de ce que c'est que l'expérience religieuse, n'est-ce pas? Vous savez, c'est une idée comme ça, c'est une notion qu'on a inventée chez les Goïm, comme quoi il y a ce qu'on appelle l'expérience religieuse. À tel point même que, de même qu'on parle de l'homo faber, homo sapiens, etc., homo erectus, alors il y a également le homo religiosus. Ça voudrait dire que il y a une manière d'être qu'on appelle le religieux, et qui a été étudiée dans différentes études. Il y a ce qu'on appelle la phénoménologie de l'expérience religieuse. C'est des très beaux mots comme ça. Bon, on dit, ça veut dire n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est une manière, en fait, de briller dans les salons. On parle de phénoménologie de l'expérience religieuse. On parle de phénoménologie de l'expérience religieuse. Retiens bien ce nom-là, ces mots-là, parce que ça permettra, justement, de faire un grand effet. Et donc, en fait, ce qui se cache derrière cette idée-là, c'est que il y a une manière d'être, il y a une façon d'être qu'on appelle être religieux. Et on va voir que dans la tradition de la Guémara, il n'y a rien de ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, l'expérience religieuse par excellence, celle de la prière, a besoin d'être définie. Et la Mishnah appelle ça Kovéd Rosh. Kovéd Rosh, c'est une sorte d'expérience de lourdeur de tête, et une sorte de sérieux. Et la Guémara se demande d'où est-ce qu'on tire ce devoir d'avoir ce Kovéd Rosh, cette expérience donc, expérience religieuse, et on amène différents versets. On avait commencé à voir ça la dernière fois. Un verset qui nous parle d'amertume, un autre qui nous parle de crainte, un autre qui nous parle d'expérience esthétique, et l'autre qui nous parle de tremblement. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous ces quatre mots que j'ai employés maintenant, l'amertume, la crainte, l'esthétique et le tremblement, ce sont des expériences que l'on a dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, indépendamment de la synagogue ou de tout autre cadre religieux, ce sont des choses que l'on vit. C'est-à-dire, l'amertume, on n'a même pas besoin de croire en Dieu pour avoir de l'amertume, de la crainte, de la joie, toutes ces choses-là. Et donc, on voit bien que la Guémara, quand elle est à la recherche de la définition de l'expérience religieuse, elle n'emploie aucune expression particulière à la vie religieuse. C'est-à-dire, le terme même de religieux n'existe pas dans la Guémara. C'est important de comprendre ça. Ça veut dire que être religieux, en fait, c'est une fiction. C'est-à-dire, il y a des êtres humains. Je vous disais ça. Pourquoi est-ce qu'on a employé le terme de religieux? Pour des raisons, en fait, de facilité. C'est-à-dire, si il y a souvent cette expression, oui, toi tu penses comme ça parce que tu es religieux. Vous connaissez cette idée-là? Oui, ça veut rien dire. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand même par ces phrases qui ne veut rien dire? Une seconde. Que veut dire le mot « tu dis ça parce que tu es religieux » ? Ça voudrait dire qu'il y aurait une sorte de manière de penser qui n'appartiendrait qu'à une certaine sorte d'homme. Et cette manière de penser qui n'appartient qu'à une certaine sorte d'homme, si je ne me sens pas religieux, je n'y appartiens pas. Donc on pourrait dire tout le contenu de la Torah, de la tradition, etc., ne me concerne pas, puisque je ne suis pas religieux. C'est-à-dire, être religieux, c'est une sorte de tare que l'on acquiert à la naissance, parfois. Et c'est-à-dire, comme disait Manitou, la première fois qu'on m'a dit « tu es religieux », je me suis demandé « oh là là, donc je suis malade ». C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'attrape, c'est grave, c'est peut-être génétique, etc. Est-ce que c'est contagieux? Il faut faire attention. En tout cas, je me rappelle avoir eu un entretien une fois avec un jeune homme qui est arrivé au Machon Nir à Rosh Hashanah, un jeune homme d'Ifriloni, qui m'a dit « Kvod Arav, étant donné que tu es religieux, il est évident qu'il y a des questions que tu ne poseras jamais. » Alors je lui dis « Non, c'est faux. Je pose les mêmes questions que toi tu poses. » Alors ça l'a beaucoup gêné, parce qu'il voulait absolument me persuader qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas penser, que je ne pouvais pas questionner. Ça permet d'éviter la menace que je représente. C'est-à-dire, je viens au nom de la Torah, j'ai donc quelque chose à dire, c'est menaçant. Alors, je vais m'expliquer. Ce rabbin, il pense comme ça parce qu'il est religieux. Au lieu de penser simplement qu'il est humain. Et s'il est humain, alors il a quelque chose de commun avec tous les humains, et les questions qui sont posées là, etc. D'accord ? Et c'est donc, il en est de même pour l'expérience religieuse. Si vous avez froid, vous pouvez fermer la fenêtre qu'il y a là-bas au fond. Il en est de même donc pour... Oui ?
Après, peut-être ce qu'ils veulent dire aussi en disant ça, c'est que un religieux, comment ils appellent ça un religieux, parce que c'est l'image qui ressort.
Oui.
Mais c'est peut-être pas ce qu'ils veulent dire. Mais peut-être ce qu'ils veulent dire, c'est que on est conditionné par la manière de penser qui est donnée dans la Torah.
Exactement. Or, c'est faux. La manière de penser que nous avons, c'est la manière de penser des hommes, parce que nous sommes des hommes. Alors, il y a certains des hommes qui ont étudié la Torah, d'autres qui ne l'ont pas étudié, certains qui pratiquent les commandements de la Torah, certains qui ne les pratiquent pas. Mais, fondamentalement, la réflexion humaine est la même dans l'univers tout entier, y compris dans les galaxies éloignées. Je n'ai pas encore vérifié, mais je pense que même dans les galaxies éloignées, c'est comme ça. Oui ? Alors là, il y a un petit problème. Certains, parfois, se pensent religieux. Et alors, c'est une manière d'abdiquer leur humanité. C'est-à-dire, je vais arrêter de penser, je vais restreindre mon champ de réflexion, parce que j'ai peur. C'est une manière d'avoir peur. En fait, donc, ce n'est pas un grand honneur pour la Torah. Ce n'est pas tellement un kiddush Hashem, c'est plutôt un chiloul Hashem, de penser que parce qu'on a la Torah, alors on a un champ de réflexion réduit. Au contraire. Si on a la Torah, ça devrait nous donner plus de facilité dans l'étude de la réflexion humaine. Mais tout ça, ça nous écarte un peu de notre sujet. Le sujet, c'est l'expérience religieuse, celle de la Tefila. Alors, on a vu que dans la Tefila, finalement, la Gemara a réfuté chacune des définitions proposées pour le Koved Rosh, pour l'expérience qui vient avant la Tefila. Remarquez une chose aussi importante, ça j'ai oublié d'insister là-dessus. Quand on fait la Tefila, alors souvent on se dit, voilà, on va faire la prière pour arriver à une certaine expérience, n'est-ce pas ? J'ai bien prié et donc je ressens quelque chose. D'après la Mishnah, c'est le contraire. Je dois ressentir quelque chose et alors je peux prier. Et tout le problème est de savoir qu'est-ce que c'est que ce quelque chose que je dois ressentir. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de faire la tefila tant que je ne suis pas arrivé à une certaine expérience. En omdin leit palel, ela mitor koved rosh. On a le droit de se lever pour la prière que si on est arrivé d'abord au koved rosh. Donc il faut d'abord arriver au koved rosh et après on fait la prière. Alors c'est quoi cette expérience ? Finalement, la Gemara arrive à une conclusion, et c'est là qu'on s'était arrêté la dernière fois. On n'a pas lu la conclusion. Alors je vais vous la lire. Ela ama Rav Nachman bar Yitzhak. Mais Rav Nachman bar Yitzhak a dit, Me'acha, c'est de là qu'on l'apprend. C'est quoi de là ? Un verset de Tehilim. Ivdu et Hashem b'ira, v'gilu b'irada. Servez l'Éternel dans la crainte, réjouissez-vous dans le tremblement. Je reprends le verset. Servez l'Éternel dans la crainte, réjouissez-vous dans le tremblement. On ne comprend rien. Bon. Alors, il y a une explication de la Gemara. Maï vegilu birada. Qu'est-ce que ça veut dire, vegilu birada? Réjouissez-vous dans la crainte. Servez l'Éternel dans la crainte, je comprends. Mais ça veut dire quoi? Réjouissez-vous dans le tremblement. Pas très clair tout ça. Gilu birada. Gilu, réjouissez-vous. Comment? Une limite à la joie. Alors dans ce cas-là, c'est pas de la joie. Une joie limitée, c'est pas de la joie. Il est très bon ce café. Enfin, parce que cette île. Oui. Toi qui l'aimes? Très bien. C'est quoi? C'est un chai masala? Bergamote. Ah d'accord. Bon. Vigilou birada. Donc, si c'est la joie et elle est réduite, c'est pas de la joie. Mais il y a ici un mélange de joie et de tremblement. Alors, on va comprendre. Amar Ravada Bar Matna. Ravada Bar Matna disait, au nom de Rav, Amar Rav, Bimkom Gila Sham Tehera Ada. C'est là où il y a la joie qu'il doit y avoir le tremblement. Bizarre. On tremble quand on redoute quelque chose.
On a peur de quelque chose.
On tremble. Tu trembles carcasse, disait-il l'autre. Et donc, c'est quoi cette histoire de Gilou Birada? Bimkom Gila Sham Tereada. Là où il y a la réjouissance, c'est là qu'il doit y avoir le tremblement. Oui. Oui, mais ça, on sait qu'il faut ne pas exagérer. En rien, il ne faut exagérer. Mais le tremblement, c'est quoi exactement? Le tremblement, c'est la crainte. Maintenant, il y a un petit problème. Dans la vie de tous les jours, quand je suis en état de joie, c'est que je n'ai pas de crainte. Dès que je suis en état de crainte, il n'y a pas de joie. C'est-à-dire, ce sont deux expériences qui se repoussent l'une l'autre. Et qu'est-ce qu'il nous dit, là, le roi David? Que dans la prière, il doit y avoir conjugaison des deux. Mais ce n'est pas possible. En fait, ce qui se révèle dans la Guémara, c'est que si on veut savoir si c'est sérieux que l'on est devant Akadosh Baruch Hu ou pas, il y a un indice à cela. L'indice, c'est quand il y a un mélange de deux expériences contraires. Parce que ce n'est que lorsque je suis devant Dieu que je peux à la fois être dans la joie et dans la crainte. Quand je suis devant Dieu, je suis dans la joie. Pourquoi? C'est une grande joie de rencontrer la source de sa vie. Je suis inondé par cette rencontre. C'est une joie. Mais c'est en soi un sujet de crainte. Parce que si je reviens à mon origine, je reviens chez celui qui m'a créé, alors je suis jugé. Alors, quand on sait qu'on va être jugé, on est dans la crainte. Oui, c'est à la crainte par rapport au jugement. C'est-à-dire, je vais chez le Créateur me dit, ah, je t'ai créé, n'est-ce pas? Voyons donc si tu es vraiment ce que j'attendais de toi d'être. Est-ce que tu es conforme? C'est ça le problème, oui. Non, au contraire, plus je reviens à l'origine, plus je serai jugé. Comment? Plus on voit la non-conformité au projet. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit que on se lève pour la prière, parce que dans la prière, c'est comme si on était au tribunal. Au tribunal, accusé, levez-vous. Oui, pour l'amida. L'amida, c'est la prière. La prière, c'est l'amida, c'est pas autre chose. D'accord? C'est pas la lecture du schéma, ni psouké des imra, ni les korbanot. C'est autre chose. Oui. Ou c'est moi? Quoi encore?
Donc, est-ce qu'on peut savoir aussi si Dieu a entendu la prière?
Ça, il faut lui demander. Est-ce que Dieu a entendu ma prière? Il y a deux possibilités. Soit lui demander. Bah, tu lui demandes. Est-ce que tu as entendu ma prière? S'il te répond, c'est bien. Deuxième possibilité, c'est de voir le résultat. Par exemple, quelqu'un était malade, il a prié pour guérir. Il a guéri, c'est donc que Dieu a entendu sa prière. Il dit, maître du monde, j'ai besoin d'un lingot d'or. Oui, la prière a été exaucée, mais le problème, c'est qu'il manquait un détail. Pas sur la tête. Oui. Bon, et alors?
C'est pour le long terme,
Bah, si tu dis, voilà, je veux que dans 20 ans j'ai ça et ça, on va savoir si la prière a été exaucée. Oui.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de joie, c'est la limite.
La joie, c'est de la joie. C'est pas de la limite.
C'est-à-dire que la religion ne peut pas vraiment être joyeuse, parce qu'on a des limites quand même.
Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. La cacheroute, les limites qu'il y a dans la loi, ça s'appelle les règles, c'est ce qui permet de me libérer. Si par exemple, je veux faire de la course, n'est-ce pas? Et je veux courir. Et quand je veux courir, je vais porter des vêtements. Non, le problème, c'est que les vêtements sont trop étroits ou trop larges. Je ne veux pas courir. C'est à partir du moment où les vêtements sont en accord avec ma mesure, c'est là que je suis libre de courir. C'est-à-dire que les limites, c'est ce qui vient me dégager de l'emprise d'autre chose. N'est-ce pas? C'est ça, c'est pour ça qu'il y a une conformité, il y a une adaptation entre les mitzvot et maneshama. À partir du moment où j'accomplis les mitzvot, je suis enfin libéré. Donc je peux vraiment m'exprimer. D'accord ? C'est important de comprendre ça. Souvent j'entends par exemple des religieux qui me disent, et ça c'est des vrais religieux, ils me disent, les chilonimes, ce sont des chilonimes parce qu'ils cherchent leur confort. Quand j'entends un religieux me dire ça, je suis malheureux pour lui. C'est-à-dire celui qui vit dans la, qui aime la limite. C'est-à-dire, disons comme ça, quand j'entends quelqu'un qui me dit les chilonimes sont des chilonimes parce que c'est plus pratique pour eux, question de confort, alors je suis malheureux pour le religieux. Parce que ça veut dire qu'il accomplit les mitzvot comme une souffrance. D'accord ? Souvent d'ailleurs on entend la critique inverse. Oui, les religieux, c'est facile pour eux. Tout est clair. D'accord ? Donc, chacun accuse l'autre de son malaise. Maintenant, je reviens donc à notre truc là, c'est quand je rencontre le Créateur que je suis à la fois en état de joie réelle, de joie totale, et de crainte totale. Parce que c'est sérieux. C'est vraiment vrai que je le rencontre, donc je suis vraiment jugé. D'accord ? C'est-à-dire que, et ça c'est un signe très intéressant, parce que dans la vie de tous les jours, il y a ou l'un ou l'autre. Dans la rencontre avec Dieu, il y a les deux à la fois. Ça explique par exemple ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la prière par excellence, puisque c'est le jour du souvenir. On se souvient de nous. On se souvient de nous, donc c'est un jour de réjouissance. On fait un bon repas à Rosh Hashanah. Mais c'est un jour où on se souvient de nous, alors on est jugé. Alors c'est un jour de tremblement, Rosh Hashanah. Il y a les deux à la fois, Yom HaZikaron et Yom HaDin. D'accord ? C'est à la fois Yom HaZikaron et Yom HaDin. D'où le débat halakhique, est-ce qu'on a le droit de pleurer à Rosh Hashanah ou pas ? Est-ce qu'on a le droit de jeûner à Rosh Hashanah ou pas ? Le fait même qu'il y ait une controverse prouve la nature ambivalente de cette journée. C'est une journée où on rencontre le Créateur. Et or, c'est ce qui se passe en miniature, trois fois par jour dans la prière. Donc je suis en état de joie et de crainte simultanée. Remarquez à nouveau, cette conjugaison n'implique aucun terme nouveau. Il n'y a pas d'expérience religieuse dans la Guémara. Il y a la rencontre de deux expériences, la joie et la crainte. Donc, pour pouvoir prier, je dois rentrer dans cette situation-là. Maintenant, ça explique certaines choses. Vous vous rappelez que dans la Mishnah, on avait vu que les chassidim arishonim, les anciens pieux, se préparaient pendant une heure à la prière. N'est-ce pas ? Si je reprends ici le texte de la Mishnah, chassidim arishonim ayushohim sha'achat, les anciens chassidim restaient, enfin s'interrompaient pendant une heure, umit palelim, et alors ils priaient. Kede sheyechavnu libam laviem shebashamaim, pour orienter leur cœur envers leur Père qui est au ciel. Ils doivent orienter le cœur. Je ne comprends pas. Si ce sont des chassidim, ce sont des gens donc qui pensent à Kadosh Baruch Hu toute la journée. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une heure pour orienter leur cœur ? Nous qui sommes très occupés à l'état d'autre chose. Alors évidemment, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais pour eux, ça devrait prendre 3 secondes, même pas du tout. Or, la vérité, dans la réalité, c'est le contraire. Eux, ça leur prend une heure. Et nous, la préparation à la Amida, ça prend, dans le cas, disons, en moyenne, 1 seconde et quart. Quand on est vraiment très mahmir, ça prend 3 secondes et demie. D'accord ? Mais au-delà de ça, c'est de la folie. Or, ça devrait être le contraire. C'est nous qui devrions avoir une heure de préparation, et eux, presque pas. C'est pas ça que dit la Mishnah. La Mishnah dit que eux, ça leur prenait une heure. Maintenant, vous avez compris le problème. Mais d'après ce qu'on vient d'apprendre là maintenant, tout s'éclaircit. Il y a 2 versets dans Tehilim. Un qui dit, Aivdu et Hashem Beira, servez l'Éternel dans la crainte. Vous en connaissez un autre qui ressemble, Aivdu et Hashem Besimcha, servez l'Éternel dans la joie. Alors, ce sont 2 versets contradictoires. Mais, ça dépend à qui c'est adressé. À qui on a besoin de dire, soit dans la joie ? Celui qui est dans la crainte. Il y a des tzadikim qui ont une expérience permanente de crainte, de révérence. Donc ça leur prend une heure pour équilibrer ça avec beaucoup de simcha. Alors, les chassidim en question, ils y mettaient le paquet. Ils mettaient énormément de simra. Mais oui, ils en ont fait trop. Alors maintenant, ils vont faire une sorte de mouvement de balancier. Crainte, joie. Crainte, joie. Crainte, joie. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'équilibre. Et alors, ils peuvent prier. Ça prend une heure. Il en est de même pour l'autre sorte de tzadikim. Il y a des tzadikim qui sont dans la joie. Donc, ce qui leur manque, c'est l'équilibre. Ils doivent accumuler, quand ils se préparent à la prière, énormément de crainte. Ils en font trop. Là aussi, ils font le même mouvement de balancier. Tandis que nous, notre dimension de joie et notre dimension de crainte, c'est tout petit. Combien de temps ça prend pour équilibrer ça? 10 secondes. Oh là là, c'est beaucoup. Mais une seconde d'écart, on avait dit, c'est largement suffisant. D'accord? Vous avez compris cette histoire? Non. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, il y a quelque chose qui ressemble dans le respect des parents, parce que les parents sont des associés à Dieu dans notre création. Oui. Absolument, c'est pour ça qu'il y a deux mitzvot envers les parents, l'une le respect, l'autre la crainte. Kavod, Mora. Exactement. Exactement. Oui. Et donc, oui, vous avez compris donc que c'est ça le principe. Il faut donc cet équilibre. Maintenant, vous avez compris pourquoi, lorsqu'on fait la prière, il y a quand même dans la tradition quelque chose qui nous fait ressembler à ce travail. Il y a... la prière commence par quel mot? Hachem Sefata et Tiftar, n'est-ce pas? Mais avant d'arriver à la prière, il y a plusieurs choses qu'on fait le matin. Avant le Psouké des Imra, on fait les korbanot, n'est-ce pas? On fait le récit des sacrifices, korbanot. Après, il y a le Psouké des Imra, c'est quoi? C'est des psaumes de Tehilim, n'est-ce pas? Des Tehilim, dans lesquels on clame la splendeur de la création, de Kadosh Baruch Hu, tout ça. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Le schéma avec ses brachot. Et après, il y a la Amida. À quoi ça sert tout ça? C'est une préparation. Mais comment ça prépare? D'après ce qu'on vient de comprendre, là, c'est la même chose. Le sacrifice, c'est à cause de la crainte. C'est parce que nous savons qu'il y a une accumulation de mal dans le monde et qu'il faut réparer ce mal, il y a le sacrifice. Donc, il y a la crainte. Dans le sacrifice, il y a la précision. Il ne faut pas faire de gaffe. Dans le Ketoret, si on a enlevé un ingrédient, Hayav Mita. Donc, il y a la crainte. Une fois qu'on a fini avec ça, c'est la joie. Souké des Imra, c'est pastoral, c'est sympathique. Ça correspond bien à un paysage en fleurs, etc. D'accord? Un beau jour de printemps. Donc on a une expérience de joie. Et après, il faut faire le schéma. Pourquoi faire? Mais pour unifier les deux. Hachem Elenu, Hachem Echad. Une fois qu'on a unifié les deux expériences, alors on peut faire la tefila. Voilà. Crainte, joie, unité, prière. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile d'arriver à la joie quand on est conscient du mal. Quand on sait qu'il y a une solution au mal dans le monde, c'est le sacrifice, alors on arrive à la joie.
Et après l'Amida, il y a quelque chose pour nous remettre dans la...
Alors après l'Amida, oui, il y a tout un travail de descente, d'atterrissage. Oui, non, 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 pas du tout. Le Tachanoun fait partie de l'Amida, d'une certaine manière. La preuve, c'est qu'on ne fait pas le Kaddish. On fait le Kaddish après. Mais il y a, après cela, la lecture de la Torah. Après le Tachanoun, il y a la lecture de la Torah, le lundi et le jeudi, et le Shabbat, et les fêtes. C'est-à-dire, ça correspond à Kriyat Shema. La lecture du Shema, c'est aussi un texte de la Torah. Et d'ailleurs, la bénédiction Ahavat Olam, qui finit par Abocher Bermo Israël Be'ahava, d'après les poskim, est équivalente à la Birkat à Torah. Donc, il y a, on est arrivé à la prière, on redescend vers la lecture de la Torah. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Pas du tout. Ashrei et Uvalitiyam. Et le Shirshalyam. Tout ça, c'est quoi? C'est des Tehilim. Ça correspond à Psouké des Imra. Et après, Tana David Yahou, etc. Ce sont des textes de la tradition orale. Ça correspond au Korbanot. Certains disent même le Pitouma Ketoret. Ça correspond donc au Korbanot. Donc vous avez une sorte de pyramide comme ça. Ça monte, ça redescend. Oui, quoi encore? Deux questions. C'est énorme. Vas-y. Les jours où il n'y a pas la Torah. Oui, mais il n'y a pas trois jours sans Torah. Alors, ça rayonne. Oui, et puis les Ashkenazim. Oui, mais le plutôt Mac Torah qu'ils font après. Non, d'accord, je n'ai pas parlé d'Alenou le Shabbat à dessin, justement, à cause du Minag Ashkenaz. Oui. Oui.
Le milieu de la
Hamida. Attends, non, mais la Hamida, elle est inverse. Oui. Dans la Hamida, c'est comme un V. C'est-à-dire, si tu dessines ça comme une montagne avec un V dedans, ça fait un volcan. C'est-à-dire, oui. Non, c'est-à-dire, il y a 18 bénédictions. La fin de la 9e, c'est Mevarech Hashanim. C'est là le moment le plus bas de la Hamida. Après, ça remonte.
En fait, quand
et ça, il faudra étudier la Hamida, oui.
Quand on dit Imru Amen, en fait, il faut avoir une grande kavana pour.
Quand on dit Imru Amen, il faut avoir une grande kavana. Quel est le rapport avec ce qu'on vient de dire?
Ah, c'est censé être le sommet de la Hamida.
Ah, la fin de la Hamida.
Oui.
Imru Amen, effectivement, oui.
Je ne sais pas. Les Ashkenaz, pour la partie.
C'est fini là-bas? Respectez les questions des élèves. Bien sûr, les Ashkenaz font des korbanot également, comme les Sfaradim, avec une différence. C'est que les Ashkenaz sont des gens fiables. Et donc, on leur fait confiance qu'ils ont fait les korbanot à la maison. Tandis que les Sfaradim ne sont pas si fiables que ça. Et donc, on les suspecte de ne pas vouloir dire les korbanot, alors on les oblige à les faire à la synagogue. Bon. Ah oui, non, c'est vrai. C'est peut-être oublié parfois, mais c'est vraiment comme ça. Donc, je reprends ici le texte. Quoi? La quoi, là? Qu'est-ce qui est important d'après le Zohar? Ah, le Ketoret, bien sûr. Le Zohar met un paquet énorme sur le Ketoret. Évidemment, c'est très important, le Ketoret. Maintenant, vous allez me dire, mais tout ça, c'est vrai pour Shaharit. Qu'est-ce qu'il en est de Mincha et Arvit? Eh bien, vous allez voir, dans Mincha, il y a, certains font le Korban HaTamid, n'est-ce pas? On récite, d'après, dans la certaine communauté, le Tamid, avant le sacrifice perpétuel, avant Mincha. Et puis après, on fait Ashrei. Ça ressemble donc, merci beaucoup, au Korbanot et au Psuké des Imra. Mais, il n'y a pas de schéma. Mais à Arvit, il y a le schéma, mais il n'y a pas Psuké des Imra et Korbanot. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on colle Mincha à Arvit, et donc on a l'avantage des deux côtés. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Non, ce sont deux questions différentes. Est-ce que le Pitoum HaKetoret, c'est vraiment obligatoire? C'est une première question. Est-ce que ça a été rajouté au cours des siècles? Et en est une deuxième. N'est-ce pas? C'est effectivement une obligation et ça a été rajouté au cours des siècles. Quoi? Ça, c'est un mouchoir. Quoi? Bon, d'accord. Alors, où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que tu dis? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il propose un mouchoir. Il n'a pas dit. Bon, si tu veux, je veux bien. Ça te fera plaisir ou pas?
Moi, ça me
fera plaisir. Oui, vraiment? Bon, alors, c'est très bien. Voilà, bon, c'est très bien. Ouais. C'est utile. Tom, où est-ce qu'on en était? Oui, alors, donc, on est arrivé à cette conclusion que dans la prière, il y a cette conjugaison de la rencontre, la joie et la crainte. Et là, je voudrais... je saute ici. Il y a plusieurs considérations dans le texte de la Guémara sur les rapports entre la crainte et la joie. Et puis après, arrive un deuxième texte, une braïta. Vous savez ce que c'est une braïta? Une braïta, c'est un texte tanaïtique, c'est-à-dire de l'époque de la Mishnah, mais qui n'est pas inclus dans la Mishnah, mais qui est souvent équivalent dans sa valeur à la Mishnah. Alors, parce qu'on a vu dans la Mishnah qu'on ne peut prier que si on est arrivé au Kovet Rosh. On a compris que le Kovet Rosh en question, c'était l'équilibre entre l'un et l'autre, entre la crainte et la joie. Mais après, il y a un deuxième texte, Tanoura Banane. nos sages nous ont appris. En omdin leitpalel, on ne se lève pour la prière. Lomitor din velomitor dvar alacha. On ne fait la prière pas à partir d'un din, c'est-à-dire d'un jugement. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes au tribunal, vous êtes un juge au tribunal. Vous venez de rendre un jugement, vous ne pouvez pas faire de la prière. Pourquoi ? Parce que c'est un excès de rigueur. Le din, c'est un excès de rigueur. Or, dans la prière, il faut le mélange. Velomitor dvar alacha. Et non pas à partir d'un discours de halacha. Un discours de halacha, c'est-à-dire c'est une discussion entre deux élèves de la yeshiva. Alors là, c'est extrêmement libre. L'un dit comme ça, l'autre dit autrement. On peut dire n'importe quoi dans un dvar alacha. Machloket. Et alors, on ne peut pas faire la prière non plus. Ela mitor. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la prière ? Mitor halacha pesuka. À partir d'une halacha fixe. Ah bon ? C'est-à-dire, une halakha, c'est midat hadin. Mais le fait qu'elle soit pesuka, c'est-à-dire qu'elle soit sans doute, il n'y a plus de doute, ça, c'est la joie. Je suis heureux de savoir que la halakha a été tranchée. Il n'y en a pas 36, je sais exactement, voilà. On pouvait penser comme ça, on pouvait penser comme ça. Finalement, on a tranché. Donc, il y a la joie. Il y a un principe, en simha katarat asfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que être libéré d'un doute. Donc c'est ça, il faut faire le mélange des deux. Ça ressemble un peu à ce que dit le texte qu'on avait auparavant, la crainte et la joie. Là, il y a également midat hadin et midat hachesed en même temps. Et alors, bon, la Gemara a même plusieurs sortes d'exemples de ce que c'est que la halakha psouka. Je vous en fais grâce pour l'instant. Mais à la fin, la Gemara dit « Rabbanan avde ke matnitin, rav ashe avid ki braita. » Les sages faisaient comme ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'il priait à partir du Kovet Roche, qu'on a vu être un mélange de crainte et de joie. Et Rav Ashé, lui, il faisait comme la Braïta, il étudiait une halakha psouka avant de faire la prière. Alors, la question qui se pose, pourquoi est-ce que Rav Ashé, il a son halakha et lui ? Si tout le monde fait comme la Mishnah, pourquoi lui, il se mêle de faire comme la Braïta ? Qui est Rav Ashé ? C'est l'auteur de la Gemara. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait dans son cœur, dans sa mémoire, toutes les machlokot du monde. Donc, il ne pouvait pas faire la prière sans sortir de l'atmosphère de machloket. Donc, c'est pour ça que lui, il avait son halakha à lui, il faisait son halakha psouka avant la prière. Oui, c'est sa halakha personnelle. Jusque-là, vous suivez ? Oui, c'est ça. Maintenant, le problème... Là, je voudrais vous faire encore une petite remarque à propos de la joie et de la crainte. Il y a un texte juste un peu avant. Amar Rabbi Yochanan disait Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, selon l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand Rabbi Yochanan dit quelque chose selon l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en général pour enseigner quelque chose de très profond. Alors, qu'est-ce qu'il disait ? Assur le Adam. Un homme n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Attends, il n'a pas écrit qu'il n'a pas le droit de rire, il a dit qu'il n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire. C'est quoi quoi? Ben, ça veut dire le rire total. Oui, mais pourquoi? C'est pas vrai ça. Le rire total... C'est une satisfaction absolue. Est-ce qu'on peut être absolument satisfait dans ce monde ?
Non.
Qui a dit oui ? Qui c'est qui a dit oui ? C'est toi qui a dit oui ? Mais attention, est-ce qu'on peut vraiment rire quand on voit les informations ? Ah, donc si on ne voit pas les informations, c'est qu'on n'est pas dans ce monde. Mais dans ce monde, est-ce qu'on peut rire ? Et est-ce que le monde est drôle ? Non. Justement, est-ce qu'on a le droit d'être heureux ? Justement, c'est le problème. Est-ce que c'est une forme, si vous voulez, c'est une forme de, disons, de cynisme. Celui qui est satisfait de l'état du monde accepte le mal. C'est assez fait exprès, ça ? Celui qui est satisfait de l'état du monde accepte le mal. Et accepter le mal, c'est grave. Alors, il amène ici un... Vous connaissez l'histoire du rire d'Ishmaël, qui a été renvoyé à cause de ça, à cause du... Ça me paraît... Quoi ? Oui, ben l'histoire du rire d'Ishmaël. Ishmaël, le fils d'Abraham, a été renvoyé de la maison à cause de son rire. Très bizarre. Surtout que son frère, il s'appelait Yitzhak, celui qui rit. Donc, il y a quelque chose qui... Oui, mais c'est... D'abord, c'est écrit qu'il riait. D'accord ? Après, c'est une interprétation de son rire. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le rire d'Ishmaël qui est négatif. Alors, qu'est-ce qu'il y a de problématique dans son rire ? Alors, voyons ce que dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Assur le Adam chez Emale Srok Piv Barola Mazé, l'homme n'a pas le droit de remplir de rire sa bouche dans ce monde, chez Neymar, ainsi qu'il est dit, alors, tenez-vous bien, il y a un verset important, Az Yimale Srok Pinu, Ulshone Nourina, c'est alors que notre bouche se remplira de rire, notre langue de réjouissance. Alors c'est quand ça? Et Matai, quand? Bisman Sheyomru Bagoyim. Ça sera au moment où l'on dira parmi les nations, Igdil Hashem la Asotim Ele, Dieu a fait de grandes choses avec ceci. Comment? C'est quand les Goyim diront que Dieu a fait de grandes choses avec nous, que nous nous remplirons notre bouche de rire. Et pas avant. Non, on a le droit de rigoler, mais pas pleinement. Non, il y a écrit, quand les goïms diront Dieu a fait de grandes choses avec vous. J'en sais rien, je pense que c'est pas quand il y a écrit, il n'y a pas écrit que c'est quand viendra le Mashiach. Il y a écrit que c'est quand ils diront cela. Or, récemment, on se rend compte de plus en plus que les goïms le disent. Il y a parmi les... Comment ? On peut commencer. C'est-à-dire que, retenez-vous, oui. Oui, dans le petit Nicolas, la maîtresse a dit de ne pas rire sans autorisation. N'est-ce pas? Oui, non, c'est vrai. Hein, c'est bien. Comment? Vous connaissez pas cette œuvre gigantesque, le petit Nicolas? Ça vaut la peine. Et donc, c'est vrai que c'était traduit en hébreu. C'est traduit en hébreu. Il y a même une introduction de santé pour l'édition hébraïque. Oui, Nicolas Katan, Sampé a écrit cette introduction à l'âge de 93 ans, très honoré, dit-il, de ce que son œuvre a été traduite en hébreu. Ça fait partie également de ce que disent les goyim, Imale se rok minu, ou c'est quand ils disent Igdi Hashem asot imele. Or, effectivement, de plus en plus, il y a, c'est un phénomène que je constate, il y a parmi chez les nations la conscience qui se passe de grandes choses par providence divine dans le peuple juif. Alors, c'est vrai qu'il y a une attaque médiatique hargneuse du monde entier contre l'État d'Israël, mais parallèlement à ça, il y a également un éveil de la conscience qui fait que beaucoup de gens se disent « mais c'est pas vrai, au contraire, c'est Israël qui est la source de la lumière ». Yomru bagoyim, il n'y a pas écrit Yomru hagoyim, il n'y a pas dit que les goyim diront, mais on dira parmi les nations. C'est-à-dire que pas tout le monde le diront, mais une partie le diront. Oui. Ah, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva rigolait? Pour une raison très simple, c'est que les sages qui étaient avec lui étaient bénévoles pour pleurer. C'est-à-dire, on voit que dans l'histoire que tu racontes, peut-être que pas tout le monde connaît, la Guémara raconte qu'un jour, Rabbi Akiva et les sages sont arrivés à Jérusalem et ont vu le mont du Temple en désolation et un renard, un chacal qui sortait des ruines. Alors les Chachamim se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva s'est mis à rire. Et les Chachamim lui ont dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu ris? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Non, c'est pas ça qu'il a répondu. Il leur a dit? Non, c'est pas ça qu'il a dit. 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 Exactement, c'est ça la réponse. Il leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? C'est-à-dire, avant de leur donner son explication à lui, il a voulu d'abord qu'eux expliquent pourquoi est-ce qu'ils pleurent. Et ils ont dit, nous pleurons parce qu'un lieu est si éminemment saint dont il est dit que l'étranger qui s'approche sera mis à mort. Maintenant, les renards sortent des ruines et nous ne pleurions pas. Et alors, Rabbi Akiva leur a dit, oui, c'est justement pour ça que je ris, parce que ça prouve qu'il sera reconstruit, puisque les prophètes ont dit qu'il sera d'abord détruit et après reconstruit. Remarquez que c'est très important. Rabbi Akiva ne pouvait rire que si les Chachamim pleuraient. Mais si les Chachamim s'étaient mis à rire, Rabbi Akiva aurait pleuré à leur place. C'est-à-dire qu'on fait, on partage le travail. Alors, qui se porte volontaire pour rire? Qui se porte volontaire pour pleurer? Donc, voilà, et on se met ensemble, ça fait une chorale. D'accord? Oui, justement. Ceux qui étaient contents étaient intelligents. Et donc, j'aurais ici à ce que dit ici Rabbi Yochanan. Il y a un temps où les goyims se commencent à se rendre compte. Et il se passe quelque chose de surprenant. Il y a un mur qu'on appelait avant le mur des lamentations. Le Kotel. Et aujourd'hui, quand un touriste qui ne sait plus comment on dit le Kotel demande au chauffeur de taxi « Prends-moi là où les Juifs pleurent », il l'amène aux impôts. Parce que aujourd'hui, au Kotel, c'est sympa, ouais. Ah, quelle chance, bonjour, comment ça va, on se rencontre, surtout si c'est le soir de Tisha B'Av, alors que c'est une foule énorme. Ah, c'est extraordinaire de se voir. Ah, excuse-moi, on ne peut pas dire bonjour, on ne peut pas dire shalom parce que c'est Tisha B'Av, mais enfin, ça rigole bien le soir de Tisha B'Av. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quelque chose est en train de se transformer. Il faut en être conscient. Alors maintenant, regardez ce que dit la Gemara. Amrou alav al Rish Lakish. On a dit de lui, de Rish Lakish. Qui était Rish Lakish? Chavruta et élève de Rabbi Yochanan. Élève devenu Chavruta. Enfin, élève d'abord. On a dit de Rish Lakish. Shemiyamav. L'omila srokpiv barolamaze mikishma'a mirabi yohanan rabbe. Que de sa vie, il n'a pas rempli sa bouche de rire dans ce monde depuis qu'il l'avait entendu de Rabbi Yochanan, son maître. C'est-à-dire, à partir du jour où Rish Lakish a entendu Rabbi Yochanan dire qu'on n'avait pas le droit de rigoler absolument, il n'a plus rempli sa bouche de rire. Mais, les hébraïsants parmi vous comprendront qu'il y a un problème dans la formulation du texte. Je reprends. Amrou alav al Rish Lakish, on a dit de lui, de Rish Lakish, Shemiyamav, que jamais de sa vie, Lomila Srokpiv, il n'a rempli sa bouche de rire, Baolamazé, dans ce monde, depuis qu'il l'a entendu de Rabbi Yochanan. Il y a ici une expression en trop. Dans ce monde. Sa vie, ça s'est passé où? Dans le Olamazé. Donc, c'est à fait de soi que s'il a cessé de rire, c'était dans le Olamazé qu'il a cessé de rire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répondre, de rajouter le mot bah, Olamazé dans ce monde? Non, vous avez compris la question d'abord, hein? Ça veut dire que dans la vie de Rabbi Yochanan, et peut-être dans la vie de chacun de nous, il y a des moments où nous sommes dans le Olamazé et des moments où nous sommes dans le Olamaba. Le moment où nous sommes dans le Olamazé, c'est le temps de la prière. Et des moments où nous sommes dans le Olamaba, c'est le temps de l'étude. Pourquoi donc? Tout simplement parce que, dans la prière, on vient demander à Kadosh Baruch Hu de combler les manques du Olamazé. Il y a des misères, donc on fait la prière. Donc c'est parce qu'on est conscient du Olamazé qu'on fait la prière. Quand on est dans l'étude de la Torah, c'est un monde idéal, tout est possible, tout va très bien. En plein Beit HaMidrash, au fond d'un ghetto en Ukraine, il y a deux juifs qui discutent de savoir comment est-ce qu'on fait le service du Beit HaMikdash à Yom Kippour. Il n'y a pas de grand prêtre, il n'y a pas de Beit HaMikdash, mais on fait comme si. D'accord? C'est-à-dire que, si vous avez remarqué, pendant des siècles et des siècles, la prière du juif est une prière larmoyante. Pour ça que justement le lieu de la prière, c'est le mur des lamentations. Mais l'étude est joyeuse. Il y a la joie dans l'étude. Et puis de nos jours, ça commence à s'inverser. La prière devient joyeuse et l'étude devient sérieuse. Pourquoi? Parce que dans l'étude, on va devoir maintenant sortir de la théorie pour répondre aux questions des goïms qui vont nous dire « Qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» Alors ça devient sérieux. D'accord? Ben, ça commence à être joyeux parce que les promesses commencent à s'accomplir. donc, il y a moins de manque qu'avant. Quelque chose a commencé à bouger dans l'histoire, je crois. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand tous nos projets seront réalisés? Qu'est-ce qu'il en sera de la prière? D'accord? Ça, c'est une très bonne question. Dans la prière, je demande, par exemple, la connaissance. Je demande le pardon. Je demande la délivrance. Je demande la parnassa. Je demande la construction de Jérusalem, du temple de Jérusalem, tout ça. Et quand tout ça est réalisé, alors qu'est-ce qu'il me reste? Je ne peux plus prier? Entre autres, ce n'est pas la seule raison. Mais enfin, disons. Oui, alors, donc, dans ce cas-là... Alors, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus besoin de la prière. Mais ce n'est pas vrai. La prière restera toujours. D'ailleurs, il y avait des prières également au temps du Beth Amikdash. Les prières n'étaient pas avec un texte formulé, mais il n'y avait pas un texte fixe. Mais il y avait des prières. Déjà, on voit dans la Torah qu'il y a des prières. Mais la réponse, c'est que viendra un moment où nous prierons pour prier. C'est pour ça qu'à la fin des bénédictions où il y a des demandes, on finit par la bénédiction de Shomer Tefila. C'est-à-dire que nous demandons de pouvoir continuer à prier même quand les manques seront comblés. Alors, on priera pour quoi? On priera pour l'ascension perpétuelle. D'accord? Et ça, c'est quand on étudiera le texte de la Tefila, hein, on le verra. D'accord? Oui? Oui, il y a une insatisfaction. Oui, mais attention. C'est comme dans l'amour. Dans l'amour. Il y a le bien-aimé et la bien-aimée dans le Shir HaShirim. Tu connais le livre qu'on appelle Shir HaShirim? Le Cantique des Cantiques. Dans le Shir HaShirim, ça va très mal en vérité. C'est-à-dire que il l'aime et elle l'aime, mais ils ne se rencontrent jamais. Ils se languissent l'un l'autre, et parfois ils se rencontrent pour quelques instants, mais ils doivent prendre la fuite. D'accord? C'est-à-dire que c'est un amour extrêmement frustré. Et à la fin du Shir HaShirim, le bien-aimé dit à la bien-aimée, Hayoshev et Baganim, Chavirim, Makshivim, Lekolech, Hashmiaini, toi qui es installé dans les jardins, fais-moi entendre ta voix. C'est-à-dire que le moment est venu de se rencontrer. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Berardo dit, enfuis-toi, mon ami. C'est ça qu'elle allait lui dire, après des années qu'ils se recherchent, finalement ils se retrouvent, elle lui dit, va-t'en. Alors, c'est pour ça qu'il y a un minhag chez nos frères séfarades, après ce verset-là, on revient sur le verset d'avant. Hayoshev et Baganim, Chavirim, Machim, Nikolai, Hashmeini. C'est-à-dire qu'elle le renvoie, mais pour un instant seulement, c'est pour rigoler. C'est-à-dire, il y a la situation du Olam Hazeh, il y a la situation du Olam Haba. Dans la situation du Olam Hazeh, les séparations sont longues, les rencontres sont courtes. Dans le Olam Haba, les rencontres sont longues, les séparations sont minimes. Mais on se sépare quand même par jeu d'amour. D'accord? C'est sans souffrance. T'as compris ce que j'ai dit? Ah, ouais, c'est... Ça répond. Ouais, quoi? Bon, maintenant je voudrais... quoi? Abstrait? Non, c'est un jeu. Les gens qui s'aiment se séparent. Par jeu d'amour. Maintenant, je voudrais continuer encore quelques lignes dans la Guémara. Encore une autre braïta. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné. En omidin leit palel, on ne se lève pour la prière, l'omitor atzvut velomitor atzlut. Ni à partir de la tristesse, ni à partir de la paresse. Velo mitor sehok, et non pas non plus à partir du rire. Velo mitor siha, et non pas à partir d'une discussion vaine. Velo mitor kalutroche, et sans plaisanterie. Velo mitor devarim betelim, et sans parole inutile. Et là, mitor simha shel mitzvah, à partir de la joie que procure une mitzvah. Remarquez à nouveau la même chose. Il y a la joie, c'est la joie. Mitzvah, c'est la crainte. C'est à nouveau une autre manière de faire la conjugaison de la crainte et de la joie. C'est-à-dire, c'est une joie, mais une joie qui est liée à la mitzvah, qui est liée à une obligation. C'est pour ça qu'on fait, comme ça qu'on fait la prière. D'où est-ce qu'on sait tout ça, hein? Sheken Matsanu, attendez, non, je suis n'importe quoi. Vechen, de même. Loi pater adam et havero, un homme ne doit quitter son prochain, l'homme mitor sichav et l'homme mitor srok, pas à partir d'une discussion ni de joie, ni de rire, velo mitor kaloutroche ou de manque de sérieux, velo mitor dvarim betelim, et non pas non plus à partir d'une, de paroles vaines, et la mitor dvar alacha, mais à partir d'une alacha, sheken matzinu banevim arishonim, car nous avons trouvé chez les premiers prophètes. Vous voyez que quand on parle ici d'une halakha, concernant la prière, d'où est-ce qu'on va chercher l'enseignement? Chez les prophètes. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un prolongement de la prophétie. Chez Siimu d'Ivrehem, Bidivre, Shevar, Betachanunim, qu'ils finissaient leurs paroles avec des louanges, Betachanunim, et des consolations. Donc, tout cela, après énormément de halakhot à propos des prophètes, on ne peut être prophète que si on est dans la joie, etc. Voilà, ça c'était donc pour comprendre l'expérience religieuse. Cette expérience religieuse, d'après ce que nous avons vu, c'est une sorte de conjugaison donc entre la crainte et la joie, et qui peut être acquise par une halakha, psuka, ou par simcha shel mitzvah, et toutes ces sortes de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.